Le follet domestique de Françoise Morvan.
Comment apprivoiser un lutin ? Nombreux sont ceux qui cherchent à le savoir. Plutôt que de nous livrer à de longues démonstrations, nous avons choisi de vous faire entendre une histoire qui vous donnera quelques exemples et vous exposera des situations qu'il est utile de connaître. Vous en saurez déjà bien long sur la question quand vous aurez entendu l'histoire de gobelin que nous allons vous raconter. Nous vous prions de noter que notre gobelin, le conte se passant en Normandie, est ici appelé gobelin. Il ne s'agit que d'une forme locale.
Le gobelin jaloux. C'était une petite ferme tranquille au versant d'une colline. Elle avait un toit bleu, des murs blancs, crépis de frais, des fleurs de pervenche tout autour et des pommiers ronds qui donnaient des pommes rouges. Sur un petit étang à côté, des canards nageaient en faisant coin-coin et gobaient des goujons qui périssaient sans avoir dit mot. Quand les canards étaient gros, quick, la fermière les plumait, les cuisait au navet et leur duvet allait gonfler les gros édredons rouges sur les grands lits de la ferme. Il y avait beaucoup d'édredons de plumes sur les lits de la ferme car la maisonnée s'augmentait chaque année d'un petit rouquin qui grandissait, quittait son berceau et venait prendre place auprès de ses frères et sœurs dans un grand lit à rideaux. Le matin, toute cette bande de marmots se jetait sur sa soupe et se mettait en route sous la direction d'un plus grand, soit vers les champs pour aider les personnes, soit vers les prés pour garder les oies, soit vers les bois pour faire du fagot, jamais d'école. C'était très gai. La seule pour qui ça n'était pas très gai, c'était Javotte, la grande, qui devait aider à tout. Le matin, il fallait aller chercher de l'eau au puits, été comme hiver, mettre l'eau sur le feu, laver les écuelles, ranger la maison. Après quoi, il y avait le déjeuner à faire chauffer, les habits à ravauder, le petit dernier à bercer. Quand elle s'asseyait au coin du feu le soir, après avoir encore mis la maison en ordre, elle avait mal partout. Mais elle filait encore en dodelinant sur son rouet comme une vieille fée. L'aîné des garçons qui s'appelait Colas venait souvent la rejoindre. On l'avait chargé de chevaux. Il avait les cheveux pleins de paille à force de dormir dans l'écurie. Il venait faire un petit tour à la cuisine avant de s'en retourner à ses chevaux. Pendant que les parents dormaient sous leurs édredons pleins de duvet de canard, les deux enfants se racontaient des histoires en révoltant à moitié. Or, un soir, qu'elle était très, très fatiguée, la petite Javotte se mit à rêver tout haut.
Si j'avais un vœu à faire, ça serait d'avoir un bon petit lutin qui m'aide.
Et hop ! Devant elle, il y avait un gobelin, pas plus haut qu'une botte, noirot dans sa petite jaquette rouge, qui sautait en l'air en criant
« Tiens, Nigodon !»
Il s'assit à califourchon sur le rouet et se mit à faire tourner la roue à une telle allure qu'en moins de deux, tout le fil était filé. Ensuite, il se lança d'un bond sur la pierre déviée et tout en dansant la maclotte, il attrapait les plats et les écuelles. Il jonglait en les faisant tourner au bout de son mouchoir et les lançait sur la table en sifflant. Les plats filaient à travers la cuisine, en sorte qu'en un rien de temps, les écuelles étaient posées sur la table pour le lendemain, la soupière au milieu, les cuillères rangées par ordre de taille. Alors il sauta sur le balai, et s'accrochant aux manches, allant et venant comme debout sur une balançoire en donnant des coups de derrière, il parcourut toute la salle, puis ouvrit la chatière, souffla sur la poussière et disparut. Javotte et Colas étaient d'abord restés cloués sur place. Ils s'étaient levés quand ils avaient vu le gobelin lancer la vaisselle à travers la pièce. Mais quand ils l'avaient vu balayer, ils avaient été pris d'un fou rire. Tant et si bien que le père commença de grogner et que Colas se retira sans faire de bruit. Mais avant de se glisser sous son édredon rouge, Javotte se rappela ce que lui avait dit sa tante Margot qui lui avait parlé des lutins. Il faut toujours laisser un doigt de lait, une crêpe ou une tartine beurrée sur le bord du foyer pour se les attacher. Elle était décidée à garder son gobelin et elle se releva pour lui mettre un morceau de gâteau avec trois raisins secs et une coupelle de lait doux. Et le lendemain, il n'y avait plus trace de rien. Celui qui fut étonné en se réveillant, ce fut le petit Colas, car ses chevaux avaient été nourris, et la jument grise qui boitait avait été pansée. Il se mit à danser la maclotte en criant « Jarnigodon » et se rendit dans la salle. Rouge comme une cerise, la pauvre Javotte, pour la première fois de sa vie, avait droit à des compliments, et tournait son doigt dans son tablier comme une misérable. Et tous les soirs, le gobelin s'en revint, parfois pressé, parfois joyeux, jetant son grand chapeau en l'air, d'autres fois pensif, et il s'asseyait devant le feu en hochant la tête sans rien dire. Mais il n'oubliait jamais ses chevaux, et quand il les avait bien soignés, il retrouvait sa belle humeur. Alors il tressait deux étriers dans la crinière de l'un ou de l'autre, se mettait un califourchon sur son cou et menait boire les bêtes. Au matin, elles étaient baignées de lune, douces, lustrées, soyeuses, et Colas, à son tour, recevait des compliments. Chose curieuse, seuls Javotte et Colas voyaient le gobelin. Leur mère, qui s'étonnait parfois des prodiges qu'ils accomplissaient, disait « Il y a du lutin là-dessous », mais elle n'y croyait pas. Le gobelin ne se rendait visible qu'aux tout petits, qui ne parlaient pas, quand Javotte les prenait sur ses genoux le soir pour les endormir. Il les amusait en dansant la maclotte. Il leur apportait des racines de guimauve pour les aider à faire leurs dents, et les berçait en faisant la causette, une cordelette nouée au bout du pied, laissant aller et venir le berceau. Il faisait bon. Le grillon chantait, Javotte tricotait, le gobelin bricolait des cages à musaraignes ou des épuisettes à goujons. Il réparait ses souliers ou raccommodait ses culottes. Colas était allé se coucher depuis longtemps, qu'ils étaient toujours là, dans la lueur rouge du feu, à se raconter des histoires. Et parfois, le gobelin sautait sur les genoux de Javotte et s'endormait en ronronnant de joie, ses petits bras entourant sa taille et sa joue posée contre son cœur. Et Javotte, dodelinée, tenant son petit gobelin dodu contre elle et posant des baisers sur son gros front bosselé. Étant d'une nature délicate comme tous les lutins, il n'aimait pas qu'on le voie manger, et elle avait soin de placer dans un recoin, à l'abri des regards, les galettes de blé noir qu'elle avait pris l'habitude de préparer pour lui avec un doigt de gros lait, des mûres roses en saison, deux ou trois airelles, une crêpe de froment, des châtaignes blanches, des pépins de pommes épluchées ou des noisettes fraîches, toutes choses qu'elle avait fini par connaître comme étant à son goût. Et tout aurait pu continuer ainsi, tranquillement, si la bonne renommée de Javotte n'avait pas grandi tandis qu'elle avançait en âge et que le nombre de ses frères et sœurs augmentait d'année en année. Ils étaient pour lors 12 à la maison, sans compter Colas qu'on avait gagé chez un gros fermier riche de 30 chevaux. Il ne manquait pas de filles pour remplacer Javotte à la maison, et les parents parlaient de la placer. Or, le fils de ce gros fermier riche de 30 chevaux était un dénommé Porphyre, qui, entendant parler des mérites de Javotte, se mit en tête de la prendre pour femme. Son père, tout riche qu'il était, ne voyait que par lui et finit par donner son consentement, tenant compte du fait qu'une femme pauvre mais capable en vaut bien une riche portée à la dépense. En 3 tours de foire, un sang d'épingle à tête de verre, une pomme d'amour et un baiser, il prit son cœur. Et c'était un parti de premier choix. Pas même la peine de le décrire. Il était très, très bien. Donc, au lieu d'être placé, Javotte était fiancée. Et à peu de ça, si tout suivait son cours, elle serait fermière, riche fermière, avec des écuries pleines de chevaux, son frère dedans, des mouchoirs rouges en veux-tu en voilà, des médailles d'or au cou et de quoi faire des crêpes de la plus fine fleur de farine à son gobelin. Oh, mais le gobelin, il ne l'entendait pas de cette oreille. Un dimanche d'octobre, en habit gros bleu à boutons dorés qui brillaient au soleil, le futur fit son entrée dans la cour de ferme, et, se présentant devant la porte de la maison, attendit qu'on lui fasse signe d'entrer. On le fit entrer. On se mit à trinquer.
Qui c'est celui-là ?
Javotte, toute rouge, ne voyait pas son gobelin montrer le poing à ce gros bouton qui venait faire des trinquettes sans crier gare. Après le départ du gros bouton, il s'en alla bouder dans l'écurie. Et voilà que le gros bouton s'en revint.
Parlotte, reparlotte, trinquette, retrinquette.
Non, pas retrinquette, car le gobelin lui poussa le coude et lui flanqua son coup d'eau de vie dans le plastron. On leva les verres pour trinquer et rebelote. Le gobelin caché sous la table piqua les mollets du promis au moment où il allait boire. Et le promis se mit à sauter sur place en poussant des jurons jusqu'alors jamais entendus en ce lieu. Quelle manière! Surtout pour un promis. Voyant tout le monde se rembrunir et son porphyre s'en aller le front bas, Javotte se retira toute triste. Le soir, elle s'assit près du feu, comme d'habitude, appela son gobelin et le prit sur ses genoux pour lui parler. Il écouta ce qu'elle avait à dire et, bon, il dit qu'il voulait bien la suivre puisqu'elle devait aller en place, malgré le dérangement. Mais quand elle dit qu'elle allait se marier avec le gros bouton, alors là, il se mit à sauter partout dans la cuisine, tira la queue du chat, cassa 12 écuelles, renversa la marmite et disparut derrière le chat par la chatière. Hélas, ce n'était qu'un début. À compter de ce jour, le gobelin n'eut de cesse que de se rendre odieux. Lui qui avait si bien aidé Javotte à filer, il embrouillait son fil, ou le soir, quand elle se mettait au rouet du pied, bloquait la roue et restait la regarder en croisant les bras. Elle avait beau le sermonner, le supplier, le raisonner, se mettre à genoux devant lui, rien n'y faisait. Elle lui préparait des galettes de premier choix, il n'y touchait pas, et c'était les souris qui les mangeaient. Les souris, là, il y en avait partout. Le pauvre chat ne savait plus où donner de la tête. Quand le gobelin ne le tirait pas par la queue ou ne lui sautait pas sur le dos pour un petit galop qui réveillait toute la maisonnée, il amenait des bandes de souris d'une espèce minuscule mais culottée qui se mettaient sur leurs pattes arrière pour faire la nique au chat et grimper sur les meubles. Et ça folâtrait sous le nez du chat. Ça entrait, ça sortait, ça faisait sauter d'un coup de patte le ressort des tapettes. D'autres fois, le gobelin sortait les chevaux dans la nuit et les faisait galoper, en sorte qu'on ne pouvait plus les mener au champ. Il lutinait leur crinière et il fallait des heures pour défaire les nœuds. Il ouvrait les sacs d'avoine et distribuait de telles rations aux chevaux qu'il n'était plus possible de les tenir. D'autres fois encore, il sautait dans la baratte, mettait du poil de chat dans la pâte à pain, se promenait avec un petit sac gris plein de crottes de lapin et les semait dans les marmites. Et il s'enfuyait par la fenêtre en faisant un grand rire. Quand on disait « il y a du lutin là-dessous », Javotte devenait toute rouge et courait se cacher dans l'écurie. Elle avait beau ne rien dire, tout le monde le savait, que la ferme était enlutinée. Et le gobelin finit par se montrer, même au plus grand, même au père, à la mère et à tous les valets. Alors on dit qu'il fallait faire venir le curé de la paroisse, qui était bon pour le désenvoûtement, mais le curé de paroisse venu pour faire son désenvoûtement ne trouva rien à désenvoûter qu'un vieux pied de table mangé de verre qui dansait la maclotte sur le bord de l'âtre. Et quand il l'eut désenvoûté, à l'en croire, le gobelin se changea en lièvre, et tout d'un coup, comme le curé repartait, le fichoir en plein dans le fumier, qui, selon la coutume, était devant la porte pour montrer la richesse des lieux. On fit venir un vieux sorcier de forêt vêtu d'une peau de mouton, noire, en haillons, lequel sorcier mangea de la graine de fougère et resta la cracher sur toutes les ombres visibles, sans qu'une souris chicote ou quoi. Et quand il fut sur le seuil de la porte, le gobelin se changea en chat, se jeta dans ses jambes et le fichoir. Alors Javotte se décida.
« Ce qui lui plaît pas, c'est que je me marie. Et donc, je me marierai point. »
À quoi son père lui dit.
« Tu te marieras. »«
Je me marierai point. »«
Tu te marieras. »«
Je me marierai point. » »« Pour faire venir le malheur sur vous tous, mon frère compris, qui s'en maigrit entre ses chevaux bien trop nombreux, et il a le tour des yeux si bleu que je vois bien qu'il faut que tout revienne comme avant, car jamais le gobelin me suivra là où j'irai. »«
Tu te marieras. »
Ayant décidé de s'enfuir, Javotte rassembla son bagage qui ne consistait qu'en 3 jupons de futaine, une chemise de chanvre, un sang d'épingle à tête de verre, une pomme d'amour à peine moitié mangée, un collier de cailloux de rivière et quelques bas. Elle mit le tout dans l'un de ses jupons, attendit la nuit noire près du feu éteint sous ses cendres, et tandis que le gobelin, assis sur la poitrine du père, s'amusait à se faire lourd, elle s'éloigna par le chemin de lande qu'elle prenait pour faire signe à son promis. Quand le riche porphyre entendit parler du gobelin, il se mit à penser et à marcher les mains derrière le dos, le front tout rapetissé de s'être plissé. Ensuite de quoi, il sortit droit trouver Javotte dans le bois des fontaines rouillées, où elle attendait, bleue de froid.
Alors comme ça, c'était le gobelin.
Ouais.
Et donc, il viendra point chez nous.
Ah, il viendra point. Il est jaloux et n'a idée que de nous faire enrager. Aussi, je vous délie de votre parole. Allez trouver mon père et dites que c'est fini.
Le fait est qu'un bon gobelin dans une maison, c'est fortune promise. Bah... Mais un mauvais, c'est ruine faite. Et ce gobelin-là, il m'a poussé le coude, il m'a passé le mollet. Je n'aimerais point l'avoir chez moi.
Et il n'ira point chez vous. Il restera faire enrager le monde à la maison et c'est pourquoi je vous rends votre parole.
Oh ben moi qui avais déjà acheté la bague. C'est tout de même malheureux. Enfin, ça demande réflexion.
Mais sauf votre respect, c'est déjà réfléchi. Là, je m'en vais chez ma tante au village. Je resterai chez elle jusqu'à ce que tout soit fait et voir si moi parti, le gobelin se défâchera. Mais j'ai crainte que non.
Elle salua gracieusement son défiancé et partit d'un bon pas en versant des larmes qui gelaient sur les feuilles blanches de givre. La tante Margot vivait dans une vieille cuisine qui faisait aussi épicerie, pharmacie, droguerie, teinturerie, requinquerie et consolerie du village, et qui tenait plutôt de l'antre de sorcière que de la cuisine de bourg. Quand Javotte entra, elle était en train de touiller un brouet dans une marmite de cuivre. L'histoire du gobelin lui fit lever les bras au ciel.
Si c'est pas pitié d'être si bête, quitter un bon promis pour un mauvais gobelin, quand il suffit d'un pot de lentilles pour s'en défaire.
Des lentilles ? Pourquoi faire ?
Si tu veux le chasser, ton gobelin, tu mets ton sac à l'endroit qu'il entre, en sorte qu'il le verse tout par terre. Le gobelin est maniaque. Il n'aime point le désordre. Il passera son temps à trier les grains, trier les cailloux, en se demandant s'il faut mettre celui-ci avec celui-là. Et ça lui sera un tel casse-tête qu'il filera au champ du coq et ne reviendra plus.
Mais mon fiancé non plus. Il me voulait avec, gobelin.
Alors, bon débarras. Remercie le gobelin de t'avoir quitté de lui.
Lui qui aurait pu prendre tous mes frères à travailler chez lui.
Si c'est pas pitié d'être si bête, il vous aurait tous usé de peine. Moi qui le croyais très bon, c'était un très mauvais promis. Je le vois tout noir maintenant dans mon brouet. Il s'éloigne de toi et un autre viendra, un blond carabossé qui sera très bien pour toi.
Carabossé ? Comment carabossé ?
Comment ? Comme une casserole genre cuivre, un peu bosselu de partout et très très bien pour toi.
Bosselu comme une casserole et très très bien pour moi.
Oui, dame. Je le vois monter là, tout blond sur fond de pané. Oh. Mais fais revenir Cola.
Oui.
Et la tante Margot jeta son bâton de buis, attrapa une grosse louche, coupa deux grosses tranches de pain qu'elle mit dans deux écuelles et versa son brouet en disant à Javotte de le manger tant qu'il était chaud. Comme elle avait faim, Javotte finit par avaler le brouet où se lisait son avenir et sentit dans son cœur tourner des planètes bosselues. Il n'y avait pas que du panais dans le brouet de la tante Margot. Il y avait des plantes de marécage, du cyrse, de l'ail des ours, de la poudre d'ortie, du poivre et du blé noir. C'était revigorant. Au bout de 3 jours, on envoya ses petits frères, Pierrot et Jeannot, chercher Javotte. Le gobelin ne s'était pas calmé. Le promis s'était dépromis. Le père était si fatigué qu'il dormait sur la table. Et les souris lui trottaient sous le nez.
Il y a même une d'elles qui a fait son nid au fond de sa poche. Je vais me la privoiser.
Il ouvrit sa poche gauche et montra 3 souriceaux gros comme l'ongle qui dormaient. Le ventre de leur mère pour oreiller, les pattes croisées sur la poitrine.
Moi, j'ai le père. Il est plus dur à apprivoiser que les autres.
Et Jeannot tira de sa poche, la tenant par la queue, une souris grise qui gigotait. Les petits frères, les tours du gobelin ne les dérangeaient pas plus que ça. Ils étaient juste inquiets d'avoir moins de pain. Et il était question de déloger, ce qui ne leur plaisait pas du tout, mais alors pas du tout.
Déloger ? Pour aller où ça ? Dans une ferme de rien, vers les fontaines rouillées, qu'il n'y ait plus de gobelins et que le père puisse dormir.
Et ne savez-vous point que le gobelin délogera de même ? C'est une histoire pourtant connue que celle du lutin qui fait déloger le monde. Et qu'est-ce qui sort de la baraque quand on arrive ? C'est lui. Où ont-ils donc la tête, vos deux parents, tant père que mère, pour avoir des idées pareilles ? Restez donc où vous êtes.
Et tout va s'arranger. Moi, je vais rentrer, Cola va revenir, et tout sera comme avant.
Sur ce, Javotte prit son baluchon, remitoufla ses 2 petits frères et fit ses adieux.
Prends toujours les lentilles. Si tu ne veux pas t'en servir pour chasser le gobelin, tu les feras cuire au lard.
Merci.
Le soir, une fois tout le monde couché, Javotte resta attendre son gobelin. Mais il ne se montra pas. Elle lui laissa 3 petites crêpes au sucre sous une bolée pour que les souris ne les mangent pas. Mais il n'y toucha pas, pas plus que le lendemain, le surlendemain, les jours suivants. Il continuait de bouder dans l'écurie et revenait piler du grain dans le grenier, lâcher les chevaux, traire les vaches. Il ne s'en prenait jamais à elle, ni aux enfants petits, et même il lui sembla qu'il continuait de venir les bercer quand ils avaient du mal à s'endormir. Mais il restait fâché. Colla revint dormir dans l'écurie. Il avait dû tout seul s'occuper de ses 30 chevaux sans rien qu'une portion de pain noir et de bouillie claire, du cidre aigre et des pommes farines une fois le jour, faisant tout de son mieux en attendant que la noce ait lieu et que le gobelin soit là. Mais c'était une maison mauvaise. Il était content de voir sa sœur démariée et d'être de retour parmi ses chevaux.
Parce que le gobelin, il avait bien raison.
Cette nuit-là, le gobelin revint dans l'écurie pour s'occuper des chevaux. Il s'occupa d'eux comme avant, et mieux peut-être, puisque Colla ne faisait plus que dormir et tousser. Mais rentrer dans la maison pour lâcher des souris, tirer la queue du chat ou casser une écuelle, par routine, juste histoire de montrer qu'il était toujours là. Parfois il était odieux, si odieux que Javotte pensait à se servir de ses lentilles. Mais à l'idée de le voir déguerpir, elle avait un pincement de cœur. Et puis il y avait Colla qui l'aidait, et le temps passait, et les petits rouquins, au lieu d'arriver un par un, s'étaient mis à venir deux par deux, et un jaco, une jacotte, un louison, une louisette avaient remplacé Toinette et Toinon sous les édredons rouges. Le temps passait, la vie était plus difficile. Parfois, des mendiants qui passaient donnaient des nouvelles du gros Porphyre qui s'était marié, de ses enfants, de ses acquisitions, de ses médailles, et de 40, 50, 60 chevaux de prix. Mais Javotte n'avait plus au cœur aucun regret. Parfois, des chanteurs ambulants venaient porter des nouvelles du monde. Parfois, des marchands de mercerie et d'almanach venaient tenter les filles avec des rubans rouges, des épingles à tête de verre, des miroirs, des sorts ou des roues de fortune. De ces marchands, beaucoup venaient de la Bohême et passaient par des voies et routes qui les menaient chez la tante Margot, renommée parmi eux pour ses vieux savoirs et ses plantes séchées. Soleil après soleil, bien des étés avaient passé après l'hiver que le promis s'était dépromis. Bien des bassines de cuivre s'étaient remplies de confitures roses. Bien des rayons de miel s'étaient posés sur les ronds de merisier pour des enfants aux mains poisseuses. Et voilà que, portant sur lui tout un fardeau de marmites et casseroles, un rétameur pris dans le soleil s'en venait frapper à la porte de la tante Margot.
Et donc, te voilà devant moi, toi, que j'avais vu bosselu dans mon brouet. Te voilà plus roux que je ne t'avais vu, et moins roux pourtant que ma nièce Javotte qui t'attend depuis si longtemps et pense encore te voir carabosser comme une marmite que tu as sur ton dos.
Elle fit entrer le rétameur pour lui poser des questions de son cru et quand, après quelques palabres et un brouet sauvage touillé de son bâton de buis, elle se sentit sûre de son fait, elle laissa aller son rétameur roux et beau comme un jour de soleil vers la petite ferme où Javotte était triste, où le gobelin boudait, où tout allait plus ou moins de travers. Et quand le rétameur vit cette petite ferme tranquille au versant d'une colline, avec son toit bleu, ses murs blancs, crépis de frais, ses fleurs de pervenche tout autour, ses pommiers ronds qui donnaient des pommes rouges, son petit étang où des canards nageaient en faisant coin-coin et gobaient des goujons qui périssaient sans avoir toujours pu dire mot, il sentit qu'il avait toujours voulu vivre là. Il sonna dans sa trompette de cuivre comme il faisait pour appeler son monde. Il s'approcha tout doucement avec ses casseroles et marmites et Javotte le vit tout à coup.
Le voilà, tout carabossé, tout bosselu. Comment vais-je faire pour l'endurer ?
Et quand elle l'eut regardé, si mince sous son fait de marmite, si gracieux sous ses fers blanteries, d'un blond si doré, brillant au soleil, elle eut envie de se mettre à genoux. Alors, Tous les enfants en âge de marcher sortirent de tous les coins pour voir le rétameur. Le père sortit du champ, la mère du potager, Colla de l'écurie, le gobelin d'on ne sait où, et tout ce monde l'attendit, qui loin, qui près, qui trottant, qui marchant de la guimauve, qui tenant sa poupée de chiffon, qui traînant sa souris en lisière ou son râteau, sa bêche, sa binette, il en venait de partout. Le rétameur soufflait dans sa trompette de cuivre. Il cherchait le gobelin des yeux, mais le gobelin avait eu soin de se rendre invisible. Il cherchait cette javotte des yeux, mais elle était debout, tout immobile, dans l'ombre d'un pommier, et rien ne se voyait d'elle qu'une boucle prise dans le soleil. Il avançait pas après pas, et il soufflait dans sa trompette de cuivre. Or, la boucle brillant sur l'ombre du pommier se mit à avancer, et les autres boucles à la suivre, et le tablier bleu, les bras tenant leur gros panier d'osier, les yeux bleus, les joues claires, piquetées de son comme un œuf de pie. Et là, d'un coup, il vit le gobelin. Il était debout, devant lui, le nez froncé, les bras croisés, lui barrant la route. Le rétameur avait fait du pays, avait couru les routes, avait appris les choses à faire et ne pas faire, les mots à dire et ne pas dire, et ce qu'il y avait à dire au gobelin. Il le savait, comme un rebouteux sait où placer les mains pour guérir le mal. Il se pencha.
Bon garçon, Robin, mon bon Robin.
Le gobelin se mit à rayonner.
Robin, mon Robin, tu es un bon garçon.
Le gobelin leva vers lui des yeux pleins de joie.
Allons, va donc. Va donc, mon bon garçon.
Le gobelin sauta dans les bras de Javotte. Et longtemps, longtemps après, quand les enfants de leurs enfants étaient déjà bien vieux, le rétameur disait « Tout est si simple. » Et Javotte, qui n'y voyait plus, disait en berçant son gobelin, pas en vieilli d'un mois, « Oui, tout est simple. » Et pour ce temps-là, son père et sa mère étaient morts, et beaucoup de ses 23 frères et sœurs et quelques-uns de ses 72 enfants ou petits-enfants, et la tante Margot, et tous ses voisins, et Porphyre à l'habit gros bleu dont les boutons brillaient si fort. Porphyre, le riche qui avait dû revendre ses terres l'une après l'autre, et ses chevaux de prix l'un après l'autre au petit Colla, si soucieux de faire son travail pour le mieux. Allons, croyons-le, tout est simple, il suffit d'avoir la formule. N'oubliez pas, le mot et la formule.
Et n'oubliez pas, le mot et la formule.
C'était Le Follet Domestique de Françoise Morvan. Présenté par Agnès Sourdillon. Le gobelin jaloux, raconté par Jacques Gamblin. Avec Pascal Camerbeck, Javotte, Alexandre Aubry, le gobelin, Jean-Jacques Cholet, le père, Jean-Marc Lebars, Porphyre, Martine Guillot, la tante Margot, et Cédric Simon, Florian Guichard, Arthur Igual, Frédéric Garbiès. Bruitiste, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bruno Mourlan. Assistante, Delphine Lemaire. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.